d'informations.
Les infos. Vos infos d'ici.
Ici Michel Tanganyika et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CAGA FM. Le projet de stabilisation des berges à l'aide de toiles de jute mis en place au lac Bloussi a débuté en 2020 et a officiellement pris fin en 2025. Cette initiative visait principalement à réduire de façon considérable la présence du myriophile à épi. Cette plante aquatique submergée envahissante se propage rapidement et menace la biodiversité des plans d'eau, dont le lac Bloussi. Selon Marc Nadeau, président de l'association du bassin versant du lac Bloussi, le bilan du projet qui visait certaines zones bien précises du lac est jugé positif.
En 2020, on a installé des toiles de jute à certains endroits du lac, particulièrement au quai public à la marina de Messine, au quai public de Bloussi et devant la plage publique à Bloussi. C'était vraiment à des endroits très définis où il y avait quand même beaucoup de myriophiles. Le but était d'éradiquer la myriophile dans ces endroits-là.
Les toiles de jute se sont désintégrées et ont par le fait même tué la plupart des plants de myriophiles à épi, ce qui a permis aux plantes indigènes de reprendre vie, selon Marc Nadeau.
C'est des plantes qui permettent la baignade parce qu'elles sont moins denses, ne vont pas jusqu'à la surface de l'eau. Puis, ils maintiennent aussi la qualité de l'eau parce que, dans le fond, permettent aux sédiments de rester dans le fond de l'eau. Ça maintient comme une certaine qualité de l'eau. Les poissons sont revenus, puis ils peuvent maintenant se nourrir dans ces endroits-là où il y avait la myriophile, puis également se reproduire.
Selon M. Nadeau, le travail de sensibilisation doit se poursuivre, rappelant qu'il s'agit d'une responsabilité collective afin d'éviter la propagation du myriophile à épi, une plante qui se reproduit très rapidement.
On demande aux bateaux de ne pas culer autour parce que la myriophile se reproduit par fragmentation. Ça veut dire que quand on passe avec un bateau, avec une hélice qui coupe la myriophile, ça permet de reproduire dans d'autres endroits puis quand même assez rapidement.
Marc Nadeau mentionne qu'un nouveau projet vise à repérer les zones d'érosion, notamment près des chemins, afin d'éviter l'apport de sédiments dans le lac en collaboration avec l'organisme Rappel. La scierie de Domtar à Maniwaki cessera de nouveau ses activités ce vendredi 1er mai après une reprise temporaire de 5 semaines amorcée à la fin de mars qui a permis le rappel d'une quarantaine de travailleurs. Cette situation ravive toutefois les inquiétudes quant à l'avenir de l'usine. Pour le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, la priorité demeure le soutien aux travailleurs et à leur bien-être alors que l'incertitude persiste. Il souhaite également que le nouveau gouvernement Fréchette fasse preuve de rapidité et de proactivité dans ce dossier.
On n'a rien délesté. Donc, on continue de suivre nos membres, puis on continue de suivre très activement Domtar dans ses démarches, d'une part, mais également de suivre ce qui se passe au niveau de l'actualité en espérant qu'il y ait des bouffées d'air qui apparaissent. Voir les solutions qu'il y a pour le secteur et voir les solutions qu'il y a pour Maniwaki en particulier.
Du côté de Domtar, le directeur principal des affaires publiques, Guillaume Julien, affirme que l'industrie du bois d'œuvre demeure sous pression et que les fermetures récentes en Ontario illustrent un contexte toujours difficile.
Il devrait y avoir en bas de 10 personnes environ qui vont continuer à faire de la maintenance au cours de la prochaine semaine. Malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles là, pour l'usine de Maniwaki, mais l'industrie du bois d'œuvre continue d'être sous pression. On voit malheureusement des usines un petit peu partout au Canada, puis au Québec, cesser leurs opérations. Justement que la semaine dernière, il y avait 3 fermetures importantes en Ontario.
Selon Guillaume Julien, une réouverture temporaire de 5 semaines est prévue d'ici 6 mois afin d'assurer la viabilité de l'usine, tout en précisant qu'il n'est nullement question de fermeture définitive ni de relocalisation des équipements.
On peut s'attendre à une réouverture administrative d'environ 6 mois pour encore une période de 5 semaines. La décision n'est pas prise. On regarde les facteurs devant nous économiques puis on essaie de prendre la meilleure décision pour l'organisation puis pour nos gens. Il n'y a pas l'intention là, de changer quoi que ce soit à la bâtisse, à l'usine actuellement ou à sa capacité d'opérer. Le but, c'est de garder l'usine opérationnelle à 100%.
Cette situation souligne les défis majeurs auxquels est confrontée l'industrie forestière dans la vallée de la Gatineau, un secteur clé pour l'économie régionale dont l'avenir demeure fragile. Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, a dévoilé son énoncé économique hier. Ce dernier fait l'éloge de la bonne gestion des finances du gouvernement Carney en soulignant que le déficit est légèrement inférieur à ce qui était prévu. Le déficit de l'exercice financier 2025-2026 s'établit à 66,9 milliards de dollars alors qu'on prévoyait 78,3 milliards. Toutefois, ces chiffres demeurent supérieurs au déficit record de 62 milliards de dollars qu'avait atteint le gouvernement Trudeau en 2024. Dans un communiqué, la députée de Pontiac Kitigan-Zibi, Sophie Châtel, rappelle que l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels permet aux ménages admissibles de recevoir un soutien financier pour couvrir une partie des dépenses liées à l'alimentation et aux produits de base. En 2026, l'inflation alimentaire au Canada est la plus importante de tous les pays du G7 et le double des États-Unis. Le soutien au secteur agricole a également été réaffirmé afin de permettre aux producteurs de continuer à approvisionner les marchés locaux malgré la hausse des coûts. La suspension temporaire de certaines taxes sur le carburant vise également à soulager les contribuables, surtout dans une région où les déplacements en voiture sont essentiels. La taxe carbone industrielle est toujours en place. Des investissements majeurs sont aussi prévus pour les communautés autochtones. Près de 4,3 milliards de dollars seront consacrés aux services essentiels, notamment en santé, en éducation et en infrastructure. À Kitigan-Zibi et à Lac-Barrière, ces investissements permettront d'améliorer l'accès aux services de proximité et de soutenir des projets servant à renforcer leur autonomie, selon Ottawa. Et en terminant, la Caisse populaire des Jardins de la Haute-Gatineau a récemment tenu son assemblée générale annuelle. Selon son directeur général David Logue, la Caisse populaire a connu une très belle année et les administrateurs sont satisfaits des états financiers par rapport à 2025. La ristourne versée aux membres a aussi augmenté par rapport à 2024.
On a eu une très belle année en 2025. Ça s'est soldé avec une augmentation de notre ristourne de 100 000 $ sur 2024. Donc notre ristourne qui se chiffre à 900 000 $ pour cette année.
Au courant de la précédente année, la Caisse populaire a mis l'accent sur le développement professionnel de ses conseillers. Cette année, elle voudrait se concentrer sur son offre de services.
Le conseil d'administration sont en réflexion actuellement pour voir comment on peut mieux s'organiser, potentiellement avec d'autres caisses, pour mieux offrir des services et garantir aussi la pérennité de notre caisse dans l'ensemble des milieux de la région.
La Caisse populaire des Jardins de la Haute-Gatineau a également ajouté 94 000 $ dans son fonds d'aide au milieu pour venir en aide à la collectivité de la région. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information local et régional de CAGA-FR.